nous donne 2 minutes. Sur la bande, on se relève malgré toutes les chutes. Le pourparler, c'est devenu une habitude. Sur la bande, c'est là que le sport, on en discute. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la 4e saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Sur la bande, podcast et blog, on touche à tous les rayons. Le sport fait rire, danser, pleurer les nations. Dans l'air, sens-tu le climat de la compétition? On est déjà prêt pour la 4e saison. De nouveaux invités à tous les lundis. Avec les best Sébastien et Zachary. Des anecdotes, les joueurs sont tous réunis. Faut partager, on veut entendre votre avis. Avec les gars, on parle de mise en échec. C'est le retour, le jeu 16 ans sur la gazette. Tout un parcours, des gros segments sur nos athlètes. Les 3 étoiles de la semaine me font tourner la tête. Tire de barrage, on shoot des questions en rafale. Des vrais sportifs qui font des entrées remarquables. On aime parler de tout, chaque journée est spéciale. Quand on est là pour se rassembler autour de la table.
Bonjour Zach.
Salut Seb, ça va?
Ça va super bien toi?
Ça va stresser, mais écoute, ça va se placer. À soir, on ne perdra pas trop de temps. Je sais pas si tu as des choses à dire.
Non,
mais moi, je suis limité dans le temps pour expliquer aux personnes qui nous écoutent. À 7h30, je me fais remplacer par Jules, c'est ça. Mm-hmm. Fait que, on ne perd pas de temps. La mise au jeu de cette semaine, Monsieur Stéphane Leroux.
La mise au jeu, une présentation de Rabourrage Abitibi 2007, Alain Sabourin. Vous pouvez le contacter pour des toiles de bateau, VTT, tout ce qui est dans le rabourrage, Alain Sabourin.
Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane.
Hey, salut les gars, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, ça va bien, merci. Merci de me recevoir dans votre balado.
Merci d'avoir accepté l'invitation surtout. Chaque semaine, on a une question pour les auditeurs, mais là, je me suis dit, vous êtes probablement une bonne personne, il va falloir l'habitude, pour me répondre. Donc, Alex Barry-Boulet, méritait-il d'aller à Laval selon vous, les auditeurs, et selon toi, Stéphane?
Bah, écoute, c'est une décision qu'on a vue ce matin. Ça cache peut-être quelque chose d'autre qui s'en vient au cours des prochains jours. Peut-être qu'on va le céder seulement techniquement parce qu'une fois qu'on l'aura cédé, qu'il aura passé au ballottage, après ça, ça va être plus facile de l'envoyer à Laval et de ne pas être obligé de répéter ce processus-là. Alors, on n'en sait pas beaucoup en ce moment. Pour ce qui est de savoir s'il mérite ou pas, écoute, il y a eu un bon camp d'entraînement. Puis, dans les 2 premiers matchs, ça a été plus timide. On l'a rayé de l'alignement pour la rencontre d'hier. Tu sais, ça demeure un gars là, qui est sur la clôture là, entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Ça a été ça toute sa carrière. Puis je pense que ça va se poursuivre. Ceci dit, s'il s'en va vraiment à Laval, ça va donner un coup de main au Rocket. S'il s'en va à Laval, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être appelé ou il y a quelqu'un qui va arriver d'ailleurs qu'on ne sait pas en ce moment encore. Alors, on va attendre au cours des prochaines heures.
Parfait.
Est-ce qu'on prend une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas? Ceux qui ne connaissent pas, ils ne sont pas dans le monde du hockey, ça c'est sûr.
Ben écoute, je suis un gars qui a étudié en communication à Jonquière en arts et technologies des médias de 1987 à 1990. Mm-hmm. J'ai été le premier stagiaire de la salle des nouvelles de RDS qui avait ouvert en septembre 89. Donc, quand je me suis présenté en stage en mars 90, je ne savais pas trop ce qui m'attendait. RDS n'était pas évidemment à l'époque ce que c'est aujourd'hui. Ça faisait 6 mois que c'était ouvert quand je suis arrivé. Il y a des gens qui disaient « ça va fermer bientôt, ça ne marchera pas ». Il y en a d'autres qui disaient « non, c'est l'avenir de la télé sportive ». Bref, 34 ans et demi plus tard, j'y suis encore. Je me considère très privilégié. J'ai développé un créneau au fil des années avec le hockey junior, le hockey amateur, tout ce qui est en dessous de la Ligue nationale. Mm-hmm. Puis, ça fait tellement longtemps que je suis là que maintenant, je couvre les fils des joueurs que j'ai couverts au début. je n'ai plus le nombre exact là, de fils que je couvre après avoir couvert le père hein, au début des années 90-95. Puis à ça, bon, on a ajouté évidemment les mondiaux juniors à la description, les Coupes Memorial. J'ai eu la chance de participer sur place aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. J'ai couvert aussi les deux derniers Jeux olympiques d'hiver, mais en studio avec Radio-Canada et RDS qui faisaient une collaboration en 2018, en 2022. Le Rocket de Laval est arrivé là-dedans aussi. Il y a maintenant, on va commencer la 8e saison vendredi prochain. Alors, je me plains pas, j'ai des saisons bien remplies, mais comme je dis souvent, la plupart des gens payent pour aller voir le hockey. Moi, je suis payé pour aller le voir. Alors, il y a pire dans la vie, j'en suis pleinement conscient.
Je l'ai entendu ça tantôt en regardant la poche bleue, justement.
Ouais, c'est une phrase que j'aime dire. Puis, tu sais, moi, j'aime à penser que je fais le plus beau métier. Puis, je fais partie des gens qui, quand ils avaient 8, 9, 10 ans, disaient « je veux faire ça dans la vie », puis j'y suis parvenu. Je vais être honnête, à l'époque, je ne pensais pas nécessairement me retrouver à la télévision. Je pensais plus écrire dans le journal, parce que quand j'avais 10 ans, puis vous étiez probablement pas au monde, ou en tout cas, vous étiez très jeune, il n'y en avait pas de télé sportive 24 heures par jour, ça n'existait pas. Tu sais, le bulletin de sport, ça durait 10 minutes à la fin des nouvelles générales, puis c'est à peu près tout. Tu sais. Alors, je me voyais dans un journal écrire, suivre le Canadien, puis tout ça. Puis finalement, ben, quand est arrivé l'avenue de RDS à l'été 89, je me suis dit, j'avais 22 ans, je me suis dit, ça c'est pour moi, c'est sûr, il faut que je travaille là un jour, même si je fais les statistiques ou peu importe, ça va être pour moi de travailler là-dedans. Puis j'ai été chanceux, j'ai travaillé fort, mais c'est arrivé. Puis moi, quand j'avais 8, 9, 10 ans, puis que je jouais au hockey dans la rue, ben je décrivais le match en même temps que je le jouais. Alors, c'est ceux qui me connaissent depuis l'école primaire puis qui me revoient dans des moments où on ne s'attend pas, ils se disent toujours, je ne suis pas surpris que tu fais ça, je ne suis pas surpris, c'est ça que tu voulais faire. Puis, alors, merci la vie, je suis privilégié, puis j'espère que ça va continuer encore un petit bout, même si je commence à être vieux.
Petite question de nos auditeurs parce qu'on les laisse avoir des questions. Après, on se tarte sur autour du filet. Salut Stéphane, faut-il s'attendre à avoir plus de hockey de la LGMQ à RDS?
La réponse est non. C'est plate, je le sais, les amateurs aimeraient ça, mais ça devient une question de rentabilité, ça devient une question financière, comme à peu près tout dans la vie. Ce que les gens doivent savoir, c'est que RDS, on a présenté du hockey junior. De 1990 à 2011, on présentait des matchs de la LHJMQ en saison régulière au fil des ans. Ensuite, on a perdu les droits pour TVA Sport. TVA Sport a fait une super bonne job avec le hockey junior pendant plusieurs années, présentait beaucoup de matchs. Mais eux aussi, comme nous, se sont rendus compte que ce n'était pas rentable. Parce que quand on présente un match de hockey junior, ça coûte plus cher des fois que de présenter un match du Canadien au niveau technique. Je ne parle pas des droits. Là. Les droits, évidemment, c'est plus cher dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Mais exemple, on veut aller présenter un match à Val-d'Or ou à Chicoutimi qui implique deux équipes. Là, mettons, je dis n'importe quoi, le Rimouski à Val-d'Or. Mm-hmm. Ben, il faut déplacer une équipe technique sur place. Les caméramans qui travaillent sur ces matchs-là puis les gens de la technique, ils ne chargent pas moins cher parce que c'est un match de hockey junior. Là. On a le déplacement à payer, les chambres d'hôtel, les besoins techniques puis tout ça. Et la cote d'écoute, malheureusement, ne sera jamais assez suffisante pour pallier aux frais de production que ça entraîne. Alors, il y a 2 ans, quand TVA Sport a décidé de se retirer de ce dossier-là parce que c'était tout simplement pas rentable puis tout ça, la Ligue canadienne est venue voir RDS, TSN, Bell Media, puis a offert de reprendre le contrat. Et RDS, TSN, Bell Media ont dit « Ben non, c'est pas payant, on peut pas faire ça. » La seule façon qu'on peut faire ça, c'est si vous, la Ligue canadienne, produisez votre produit. T'sais, si vous réussissez à vendre les commandites, nous, on va devenir diffuseur, mais on ne produira pas les matchs. Alors, la LHJMQ, la Ligue canadienne, a dit « OK, on va faire ça. » Mais ils se sont rendus compte, eux aussi, que c'était pas payant. Alors, c'est plate, j'en suis conscient. Puis moi, je suis le premier à dire, j'aimerais ça qu'il y en ait 50 matchs par année de hockey junior à la télé. Mais ça fonctionne pas. Tu sais, il y a une question de rentabilité, puis ça fonctionne pas. Alors, la Ligue canadienne produit maintenant ses matchs et a décidé de garder ses sous pour les finales de chaque ligue. Alors, les finales du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest sont présentées dans leur entièreté à la télé, plus les matchs spéciaux, comme les matchs des étoiles ou les matchs des meilleurs espoirs, des choses comme ça, et évidemment la Coupe Memorial aussi. Alors, c'est ça, malheureusement, qui va se passer à la télé. Le web fait une bonne job maintenant, puis c'est beaucoup moins dispendieux, le coût de production est beaucoup moins grand. J'aime à penser que peut-être un jour, on va être capable de pallier à ça, mais pour l'instant, la réponse à la question, elle est bien plate, mais c'est non.
Parfait. On va aller autour du filet, Seb.
Ouais, notre premier segment.
Ce segment d'Autour du filet est une présentation de Boutin Performance. Si l'entretien de votre véhicule vous tient à cœur, en Abitibi, c'est le garage où aller. 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or, le meilleur garage. Bon segment.
À ton troisième repêchage en carrière, qui était en 1994, si je ne me trompe pas, tu devais aller fouiner, entre guillemets, pour avoir un scoop dans le fond. Est-ce que, mettons, c'est pour avoir une sorte de respect que tu as maintenant dans le monde médiatique?
Ben, c'était pas pour ça. À l'époque, on a célébré le 30e anniversaire de ce repêchage-là cette année à Vegas. Et d'ailleurs, les collègues m'ont fait la surprise en ondes. Je ne m'en attendais pas là, de ressortir le reportage qui avait déjà été préparé pour le 25e anniversaire de cette histoire-là. Pour mettre en contexte, c'est que à cette époque-là, RDS présentait en direct la séance de repêchage et on avait droit, nous, les animateurs, de circuler entre les tables puis de se promener à gauche, à droite, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, on est attaché en avant, que ce soit TVA ou nous là, qui présentons le repêchage. On n'a plus le droit de circuler comme c'était à l'époque permis. Alors moi, c'était ma journée préférée de l'année. C'était mon Noël, si on veut, au mois de juin. Puis, je me faisais beaucoup de contacts avec ça. Puis, je me promenais entre les tables. Et souvent, j'étais deux choix à l'avance de ce qui était connu. Parce que à cette époque-là, je sais que ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'ordinateur sur les tables. C'était papier et crayon. Puis, on écrivait sur un petit bout de papier le nom du joueur qu'on repêchait avec l'équipe pour laquelle il venait. Puis, il y avait un jeune homme qui était affecté à chaque table, qui allait porter le papier à l'avant à Gary Bettman, puis on annonçait le choix 5 minutes après. Alors moi, j'étais à l'entour des tables, puis je voyais un peu ce qui se passait, puis j'étais en avance comme ça. Puis ce qui est arrivé en 94, c'est qu'à force de se promener comme ça, à un certain moment, on a vu mon patron et moi, les deux PR des Nordiques et des Maple Leafs se jaser avec une feuille dans les mains. Puis je vais donner beaucoup de crédit à Charles Perrault, notre patron, qui est toujours là aujourd'hui, qui était vice-président à l'information. Il a dit, Stéphane, il dit, je pense que j'ai vu des noms, c'est comme si c'était une transaction sur la feuille, mais je n'ai pas été capable de tout voir. Alors moi, en fouineux un peu que j'étais, ben je me suis approché derrière eux, puis j'ai réussi à regarder au-dessus de leur épaule et voir les noms sur la feuille de Matt Sundin, de Wendell Clark, de Sylvain Lefebvre, de Garth Butcher. Puis c'était très gros comme transaction. Et je pense encore à ce jour aujourd'hui que c'est la plus grosse transaction qui a été effectuée le jour d'un repêchage. Parce qu'on était en 94, Wendell Clark, ça avait été le premier choix total en 86, puis Matt Sundin, le premier choix total en 89. Alors pensez-y, les deux premiers choix total qui sont échangés un pour l'autre le jour du repêchage. On n'a pas revu ça depuis, puis je ne suis pas sûr qu'on va le revoir. Et à cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas de Twitter, de Facebook, de TikTok, puis de toutes ces choses-là. Alors, la façon de donner ta nouvelle, c'était d'aller en ondes puis de le dire. Mais évidemment, moi, en 94, j'ai 27 ans, je n'ai pas l'ancienneté que j'ai aujourd'hui. En bon Québécois, là, j'ai la chienne, mais bon, il faut que j'aille le dire en espérant que je ne me pèterai pas la gueule. Alors, au moment où le choix numéro 4 s'effectue, on est rendu au quatrième choix, c'est les Oilers qui repêchent quatrième. Je suis avec Claude Mayotte en onde et je dis, ben écoute, il va y avoir une transaction qui va être annoncée éventuellement entre les Nordiques et les Maple Leafs qui implique Wendell Clark, Matt Sundin, puis je sors 5 des 6 noms qu'il y avait dans la transaction. C'est gros. Écoute, les gens à la télé n'en croient pas leurs oreilles parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été... Il n'y avait eu aucune fuite là-dessus dans les jours précédents, aucune rumeur là-dessus. Puis je me souviens d'être allé voir Serge Chavard à la table du Canadien, de m'être penché à son oreille puis de lui dire que Wendell Clark était échangé quand elle s'en venait à Québec contre Matt Sundin. Puis il m'a regardé en voulant dire « Qu'est-ce que tu me dis là, toi? » Puis tu vois, c'est un peu ça, tu sais, puis... Et finalement, ça a duré à peu près 40 minutes. Au choix numéro 10 des Nordiques, on a annoncé la transaction. Je dirais 90% de ce que j'avais dit. Là, il me manquait un nom dans la transaction. Puis, fait qu'évidemment, ça a causé toute une commotion. Puis, c'est sûr qu'à ce jour, c'est encore la plus grande primeur que j'ai eue dans un repêchage. Puis ça va être bien dur à battre. C'est comme un joueur de hockey qui compte 4 buts un soir. Là, tu sais, je veux dire, c'est, puis j'en avais eu une autre par après, des Nordiques aussi, avec Uwe Krupp et Ron Sutter dans la même soirée, là, quelques minutes plus tard. Ben, disons que j'ai surfé là-dessus, puis oui, ça m'a donné, je te dirais, un certain respect, parce qu'essayer de penser à ça, si j'annonce ça à la télé, puis que ça ne se produit pas, ben, la fois d'après que j'annonce quelque chose, les gens se disent « Ah ouais, c'est lui qui avait annoncé Sandin, c'est pas arrivé, il n'est pas bon, puis tout ça. » Alors, ça, je dirais que ça a lancé bien des choses. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, puis ça m'a gagné un certain respect auprès des recruteurs, puis M. Savard, j'ai toujours senti à partir de ce moment-là qu'il y avait un certain respect, puis... C'est sûr que j'oublierai jamais cette date-là. Là. C'est le 28 juin 1994 à Hartford. Puis c'est encore aujourd'hui. Quand on me demande mon top 5 de mes moments RDS, c'est pas rien, c'est ça.
Je l'avais dans mes notes aussi, mais justement, dans quel but l'avoir dit à M. Serge Chavard, dans le fond? C'était ben, quoi le but derrière ça?
Ben, le but, c'était un peu de me faire du capital. Tu sais, je veux dire. Puis là, je l'ai dit à Serge Chavard, mais je l'ai dit à d'autres aussi, tu sais, parce que je me promenais entre les temps, parce que chaque équipe de la Ligue nationale, ou à peu près, avait un dépisteur qui était affecté au Québec. Tu sais, chacune des formations a un gars qui se promène au Québec. Alors, moi, c'est des gens que je développe des contacts avec eux. Dans les arénas durant toute la saison, puis on développe une certaine amitié. Puis moi, ben pas nécessairement pour la transaction là, dont je viens de parler, mais quand j'avais un choix, mettons, je voyais là, que le choix numéro 15, c'était Éric Fichaud, les Maple Leafs de Toronto. Buffalo repêchait 16e. Il y avait un dépisteur du côté des Sables qui a travaillé avec le Canadien, mais qui à l'époque était avec les Sables, Larry Carrière. Je suis allé voir Larry, je dis, hey Larry, je dis, Toronto, ils prennent Fichaud. Il n'était pas annoncé en avant encore. Vous autres, vous prenez qui? T'sais? Là, il me disait, t'es sûr? Oui. Puis là, lui, se faisait du capital avec son propre DG. Parce qu'il disait, mon buddy d'RDS, il a vu la feuille à côté, puis ils prennent Fichaud. Fait que ça leur donnait comme 4-5 minutes de plus pour réfléchir à leur choix. Okay. Et là, il me disait, mettons, nous, on va prendre Wayne Primeau. Fait que là, moi, j'allais à la table suivante. Toronto n'était pas annoncé encore. Puis là, je disais, là, c'était Canadien, mettons, qui était là. Toronto prend Fichaud, Buffalo prend Primeau, vous allez prendre qui? Fait que moi, ça me faisait du capital. Puis c'est comme ça qu'on bâtit un peu des contacts. Puis c'est pour ça que je vous dis que j'avais un fond noir à faire ça. Mais à un certain moment, je pense que c'était en 98 ou en 99, ils me sont arrivés une journée puis ils ont dit, toi, en avant, on va vous les donner dans vos écouteurs, les choix, quand on va les savoir. Tout est informatisé maintenant. Et ça a été la fin des promenades entre les tables. Et ça a été la fin, malheureusement, de ben des primeurs. Puis il y a une fois même, Lou Lamoriello avec New Jersey, il m'avait entendu, dire à mon réalisateur dans mon camion de production, New Jersey, ils prennent un tel. Puis il était sûr que j'avais dit son choix en onde avant le temps, puis il voulait me faire mettre dehors du plancher. Là. Puis, il voulait me sortir. C'est que Lou a toujours été control freak un petit peu. Tu sais, puis, fait que ça a failli cette journée-là. Mon patron a dû venir puis dire hey, là, on se calme, là, on ne l'a pas dit en nombre, tout ça. Tu sais. Mais Lou Lamoriello, dans son control freak qu'on connaît encore aujourd'hui, même s'il est rendu à 83 ans, là, je vous parle de quelque chose il y a 25 ans. Là, alors, c'est ça. Tu sais, c'était, pour moi, c'était encore le fun, le repêchage. Je ne suis pas en train de dire que c'est une soirée plate, mais c'est plus ce que c'était à ce moment-là. J'ai eu des années incroyables là, au repêchage avec National de 1991 à 98-99. Après ça, ben, tu es attaché en avant, puis tu attends le petit gars qui est drafté puis qui s'en vient de parler. Puis j'ai toujours dit, tous les Québécois qui ont été repêchés en première ronde entre 1993 puis 2014, c'est à moi qui parlais en premier quand il descendait de l'estrade. T'sais. Alors, c'était le fun. Il y a eu des belles histoires avec ça, que ce soit des Pierre-Marc Bouchard qu'on disait qui était trop petit, mais des Guillaume Latendresse, des bonhommes qui ont été repêchés, même pas seulement en première ronde. T'sais. C'était des histoires de fun. Puis c'est des jeunes que moi, j'avais couverts à partir des rangs midget, puis que là, ils arrivaient dans la Ligue nationale. Alors, c'est toujours des beaux moments à vivre. Puis, je ne sais pas si un jour, à RDS, on va reprendre les droits du repêchage, puis qu'on aura la chance encore de faire ça, mais ça reste une journée spéciale, il n'y a pas de doute. Hein.
C'est comment de travailler avec ton fils, Jasmin, que vous faites le même métier?
Ben, écoute, c'est sûr que c'est une belle fierté. Comme Obélix, il est tombé dedans quand il était jeune. Là, la potion magique un peu, tu sais. De voir son père partir à chaque année au temps des fêtes pour le championnat du monde junior, ça lui a fait, ça lui a fait des moments tristes parce que papa n'était pas là, mais en même temps, ça l'a fait découvrir cet événement-là. Puis aujourd'hui, il est capable de vous en parler autant que moi, sinon plus. On fait des quiz des fois, puis il me bat. Il a travaillé fort là-dessus. Puis moi, je lui ai toujours dit, c'est correct si tu veux faire ça. Tu sais, les fils de chanteurs deviennent chanteurs, les fils de joueurs de hockey deviennent joueurs de hockey, les fils de pharmaciens deviennent souvent pharmaciens, dentistes. Mais moi, je lui ai toujours dit, arrange-toi pas pour que les gens disent, ah, oh, c'est bien, t'es là parce que ton père est là. Tu sais, arrange-toi pour être solide, arrange-toi pour travailler fort. Moi, je lui ai inculqué toutes mes, je dirais, mes notions de d'être assidu sur la job, de bien te préparer. Tu sais. Il y a des fois là, que je sais que je décris un match de hockey là, qu'il n'y aura pas 1000 personnes qui vont regarder parce que c'est un match qui n'a pas de signification au Québec, puis qu'en même temps, à l'autre poste, il y a un match de la Ligue nationale qui joue en même temps, mais tu n'as pas le droit de ne pas te préparer comme dit comme il faut. Tu sais, c'est un privilège d'avoir un micro, c'est un privilège de parler en ondes, puis tu dois avoir le respect de ça, puis que ce soit un match junior A qui implique un club de la Colombie-Britannique contre la Saskatchewan ou que ce soit la finale du Mondial junior, il faut que tu sois préparé et que tu travailles. Puis il y a une phrase que j'ai toujours dit quand je donne des petites conférences aux étudiants, en tout cas de même, c'est « il faut que tu te prépares tu ». Sais, puis c'est ça, j'en démarre pas. Ça paraît quand tu ne te prépares pas. Tu sais, si tu ne te prépares pas une fois, tu as du talent, tu vas réussir à passer ta soirée pareil, même si tu t'es pas bien préparé, parce que tu connais ton sujet et tu vas t'en sortir. Si tu ne te prépares pas 4-5 fois, les gens qui travaillent avec toi vont s'en rendre compte que tu es moins préparé que d'habitude. Et si tu ne te prépares jamais, ben les gens qui t'écoutent vont s'en rendre compte. Alors, il faut que ce soit pour un examen à l'école, je dis ça aux étudiants quand je fais des petites conférences, il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares, il faut que tu travailles. C'est la même chose pour un joueur de hockey, il faut que tu te prépares, puis je mets des heures de préparation, puis je mets des heures à cultiver ma mémoire. Tu sais, les gens disent toujours que j'ai une bonne mémoire, mais ça se travaille, ça. Puis c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai 34 ans de métier que j'ai levé la pédale là-dessus. Tu sais, c'est, puis Jasmin, ben aujourd'hui, il y a cette notion-là, tu sais, de se préparer. Il fait des choses en ce moment que moi, j'ai jamais faites, puis que je suis pas sûr que je serais capable de faire. Faire le red zone de la NFL pendant 6 heures de temps sans pause commerciale, je vous dis qu'il se prépare pour ça durant la semaine, il m'en parle à chaque semaine, il est en onde justement, il finit là, au moment où on se parle ou à peu près. Là. C'est une grosse job de faire ça, on le met sur le baseball, il est capable, on le met sur le soccer, il est capable, on le met sur le hockey, il est capable. Un jour, il y a quelque chose qui va se placer pour lui probablement, est-ce qu'il va devenir un descripteur de hockey à temps plein, est-ce qu'il va devenir un gars de baseball à temps plein, je ne le sais pas. Mais pour l'instant, il y a cette notion-là. Puis c'est sûr que c'est une belle fierté parce que honnêtement, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il est très bon dans ce qu'il fait. Puis c'est un gars d'avenir là, pour RDS. Écoute, il a 28 ans, puis il a déjà presque 9 ans de métier. Là. Alors, tu sais, il a commencé jeune, puis il a travaillé, puis il s'en va dans la bonne direction.
Je me rappelle l'année passée quand il t'avait remplacé lors de la finale de la GMQ.
Ça a été un moment spécial parce que c'est la première fois en 34 ans que j'étais pas capable de terminer un match. Il y avait des flûtes dans les arénas à Bécomont puis à Drummondville, puis à force de vouloir battre la flûte, on a crié, on s'est défait la voix, Marc-André Dumont et moi, puis moi, ça a été pire. Puis le match à Drummondville, le match où, numéro 4 où les Voltigeurs ont gagné les séries éliminatoires, Je savais là, que ça serait difficile. J'ai commencé le match. Lui, il était animateur en bas pour faire les entraques puis tout ça. Ça a donné que c'était comme ça. C'est lui qui était là. Ça devait être François-Étienne Corbin, mais il était affecté à autre chose. Puis pendant la première période, là, ça a complètement déraillé. Puis j'étais le premier à reconnaître. Je me mettais à la place du téléspectateur puis je me disais, ça n'a pas de bon sens d'écouter ça en ondes. Moi, si j'écoutais la télé, je regardais le match, ça me taperait sur les nerfs. Pendant la première période, j'ai dit au réalisateur, je vais finir la période, mais à partir de la deuxième, ça va être Jasmin. Puis moi, je vais aller prendre sa place en bas où la job était moins demandante, tu sais, d'aller faire des entrevues dans les entraques puis tout ça. Ça a donné que c'est ce soir-là que Drummondville a gagné la coupe. Alors moi, j'étais sur la glace à la fin pour faire les entrevues. C'est pas tellement moi qu'on voulait entendre, mais plus les gens que j'interviewais. Puis ça a donné un beau moment. C'était probablement une première au Québec là, que père-fils décrive un match de championnat, un peu tout sport confondu. Puis on l'a gardé dans nos archives de famille, c'est bien évident. Hein.
En date du 9 décembre 2020, qui est la date du podcast La Poche Bleue en passant, tu avais déjà couvert plus de 2500 matchs. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de cette belle carrière qui continue encore?
Ben, c'est justement ça, je pense. C'est la longévité. C'est d'être capable de s'être ajusté à tous les changements technologiques qu'il y a eu au fil des ans. Puis, tu sais, je raconte aux gens qu'en 1990, 91, 92, j'allais couvrir un match à Drummondville ou à Victoriaville. Je ne pouvais pas rester jusqu'à la fin du match parce qu'il fallait qu'on revienne avec les cassettes. Mais oui, ça existait des cassettes. Aujourd'hui, quand je dis le mot cassette, les jeunes, ils regardent, c'est quoi ça une cassette? Mais c'est là-dessus qu'on enregistrait le match, un ruban, avec un caméraman. Puis là, ben, pour mettre des images dans Sport 30 à 11h le soir, le match était à 7h30 ou 8h à Drummondville. Mais il fallait qu'à Drummondville, je sois parti à 9h20. Là. C'est une heure de route, Drummondville, pour venir à Montréal. Mm-hmm. Fait qu'à 9h15, 9h20, milieu de deuxième, des fois, c'était 2-1 pour Drummondville contre Shawinigan. On partait avec la cassette, puis je m'en revenais à RDS. On arrivait à 10h30. On mettait ça au montage. Je me faisais maquiller vite, vite. Puis à 11h10, je m'en allais en onde pour dire « Voici les images de Drummondville-Shawinigan. » C'est 2-1 Drummondville. Puis là, il y a un tableau qui rentrait. Puis, mais ça a fini 5-2 Shawinigan. Mais on ne peut pas vous montrer les buts parce qu'on est parti avant la fin du match. Parce que c'était ça, c'est comme ça que ça fonctionnait. Là. Puis ça a fonctionné comme ça, je dirais, jusqu'en 2015, 14, 15, jusqu'avant que les images sur Internet soient rentrent en direct à la station. Tu sais, maintenant, les images sont enregistrées sur place, rentrent direct. Alors, moi, je n'ai pas besoin de revenir à la station avec les cassettes, comme on dit. Les images sont déjà RDS, puis la fin du match, on l'a. Tu sais. Puis je peux intervenir en direct d'à peu près partout. Tu sais, vous êtes en Abitibi, là, puis on a eu longtemps des critiques. Comment ça se fait que vous ne présentez jamais des images, des matchs des Foreurs, puis tout ça? Mais c'est parce que l'Abitibi, là, t'es pas relié au reste du Québec par fibre optique à l'époque. Okay. C'est quoi ça de la fibre optique? Mais c'était avec ça que les images voyageaient dans le temps. Alors, quand les Foreurs se sont rendus en finale la première fois en 98, pour envoyer les images des faits saillants, là, pour envoyer, je vous dirais, là, 2 minutes d'images de faits saillants, pas le match au complet, là, 2 minutes d'images, ça coûtait 700-800 $ pour avoir une ligne de fibre optique pour envoyer ça à la station. Alors que quand on allait à Sherbrooke ou à Drummondville, puis on revenait avant la fin du match, bien, ça coûtait un déplacement, puis ça coûtait pas grand-chose. Alors, mon patron disait, bien, tant qu'à avoir 800 $ à Val-d'Or ou 100 $ à Sherbrooke, on va prendre Sherbrooke. C'est normal. Aujourd'hui, ça a plus sa raison d'être parce que tous les matchs sont sur Internet. Fait que si on veut Val-d'Or, Rouyn-Noranda, c'est facile. Je vais vous donner une anecdote qui apparaît à l'Abitibi. En 2003, Sidney Crosby, quand il est arrivé avec l'Océanique de Rimouski, a joué son premier match à Rouyn-Noranda. On appelait l'aréna Dave Keon à l'époque. Hein. Et TSN, qui évidemment était très intéressé au phénomène Sidney Crosby, nous appelle le mardi ou le mercredi avant le début de la saison. Ils disent « Hey, vendredi, Crosby joue à Rouyn-Noranda, on aimerait ça avoir des faits saillants. » Là, mon affectateur à l'époque, M. Bertrand Houle, l'analyste de F1, qui était aussi l'affectateur de la salle des nouvelles, il disait à TSN, il dit, ouais, mais là, ça va coûter cher parce que Rouyn-Noranda, c'est la fibre optique, ça marche pas. Puis, tu sais, là, TSN, ils ont dit, gars, ça coûtera ce que ça coûtera, on va avoir des faits saillants. Fait que ça a coûté 1500 $ pour avoir une minute de faits saillants. Mais Sidney Crosby a compté 3 buts en 3e période ce soir-là. Et c'est la première fois de sa vie, ce match-là, à Rouyn-Noranda, qui portait le numéro 87. Et c'est le numéro qu'il suit depuis toujours, tu sais. Alors, il n'y aurait pas d'image de ce match-là, n'eût été de la demande de TSN, parce que c'est sûr qu'à RDS, on n'aurait pas payé 1500 $ pour avoir Sidney Crosby, un gars de 16 ans qui venait jouer son premier match dans la LHJMQ. Alors, tu sais, c'est des choses qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question de base, de quoi je suis le plus fier, bien, c'est la longévité. C'est de m'être ajusté à tout ça au fil des ans, à la venue des médias sociaux qui a complètement changé notre job, tu sais, où on est critiqué de toutes parts et il suffit qu'on mette un commentaire, une virgule qui fasse pas l'affaire, puis ça dégénère. Puis alors, tu sais, je pense que c'est ça, là, je dirais, le plus gros accomplissement.
Parfait. Fait que moi, je vais devoir y aller. Merci encore, Stéphane. Très intéressant. Je laisse ma place à Jules. Salut tout le monde.
Salut.
Jules César, tu es OK.
Bienvenue à Jules César du hockey. Merci d'être avec nous. On vient de parler là, des années 90 et tout. Moi, je veux revenir un peu plus à 2024, puis le futur du hockey junior, ou en tout cas le présent et futur. Puis premièrement, je veux commencer avec quelque chose qui semble se traquer du côté américain et canadien, et c'est l'entente qui va se passer là, pour que les joueurs de la LCH puissent s'en venir par la suite dans la NCAA. Puis bon, ça, on sait que ça venait premièrement. C'est des années qu'il y a un peu cette espèce de je sais pas comment dire, de côté un peu peut-être monopolistique de la NCAA qui veulent pas que leurs joueurs jouent professionnels ou en tout cas. Il y a des malentendus, dont un joueur qui avait joué deux matchs qui n'a pas pu par la suite, deux matchs dans la WHL, je pense qu'elle n'avait pas pu jouer. Donc, plein de petits problèmes comme ça. Et là, justement, ça devrait se régler. Puis je veux te demander un peu, qu'est-ce que tu vois? Comme apport au hockey junior et aussi du côté universitaire, parce qu'on s'entend que ça va changer beaucoup de choses.
Ben, je pense, pour répondre à ta question, qu'il va y avoir du positif et du négatif là-dedans. Le positif, ça va être le jeune de 15-16 ans qui joue Midget 3A puis qui, lui, a envie de faire carrière aux États-Unis dans la NCAA, n'a pas le droit de venir jouer dans la LHJMQ pour ne pas perdre son admissibilité au rang universitaire. Le règlement en ce moment, c'est ça. Tu n'as pas le droit de passer plus que 48 heures avec une équipe de la LHJMQ ou de l'Ontario de l'Ouest si tu veux garder ton admissibilité. Alors, le kid, ce qu'il fait, c'est que lui, il ne veut pas perdre ça. Fait qu'il vient de passer deux jours, il s'en retourne, il rejoue Midget 3A à 16 ans, il joue à 17 ans dans les rangs junior A ou dans un prep school aux États-Unis pour ne pas perdre son admissibilité. Parce qu'à 18 ans ou à 19 ans, il va rentrer à Michigan ou Boston College ou Harvard ou peu importe. Et c'est son droit le plus strict. Si on ouvre le règlement, ça va permettre à ce jeune-là de pouvoir venir jouer dans la LHJMQ, exemple, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, et de pouvoir quand même garder son admissibilité d'aller jouer à 19 ans dans une université américaine. Alors, c'est le fun. On va peut-être, grâce à ce règlement-là, garder nos jeunes à 16-17 ans. Où ça peut faire mal à la Ligue canadienne, c'est justement le gars qui va venir jouer à 16, 17 et 18 et qui va partir à 19 ans et à 20 ans pour son collège américain. Alors, je prends l'exemple de cette année. L'Océanique de Rimouski reçoit la Coupe Memorial. Ils ont un paquet de joueurs de 19 ans qui sont là. Imaginez si ces gars de 19 ans-là décidaient de s'en aller jouer dans les collèges américains parce que maintenant, ils auraient le droit, même s'ils avaient joué junior. Ça fait mal à une équipe junior. Alors, il va y avoir des tractations de part et d'autre. Je pense que ceux qui vont souffrir le plus, ce sont les équipes junior A dans le reste du Canada qui recevaient ces joueurs-là, qui allaient jouer là, la USHL. Eux, ça va leur faire mal. Puis, je pense que les universités canadiennes aussi vont être pénalisées. Déjà que notre ligue universitaire, des fois, elle a de la misère, recrute les joueurs à 20 ans, 21 ans qui sortent du junior. Là, si ces joueurs-là ont le droit d'aller aux États-Unis, même s'ils ont joué 4 ans dans la LHJMQ, ça va peut-être être plus dur pour l'UQTR, puis McGill, puis Concordia, puis d'aller chercher ces joueurs-là. Alors, ça va être à l'usage qu'on va le voir pour répondre à ta question. Mais en même temps, je trouvais ça toujours très hypocrite de la part de la NCAA de dire « Hey, ton gars, il a joué avec une équipe junior, il a été payé, entre guillemets, parce que c'est ça l'affaire, c'est de garder ton statut amateur. C'est de considérer les gars qui jouaient dans la Ligue canadienne un peu comme des professionnels parce qu'ils recevaient une allocation pour jouer junior et c'est ça qui les empêchait de jouer dans la NCAA. Alors qu'on sait très bien que la NCAA paye ses entraîneurs, plus au football puis au basketball qu'au hockey, là, des millions de dollars. Tu sais, il y en a de l'argent qui roule dans la NCAA. On a toujours fait un peu cette espèce de regarder de haut un peu. Nous, la NCAA, vous autres, vous êtes en bas, puis vous allez vous plier à nos règlements, à nous. J'ai un peu de misère avec ça. Alors là, il semble qu'on s'en va vers une ouverture des portes de part et d'autre. Ça pourrait être, ça va changer l'image du hockey au niveau junior, il n'y a pas de doute.
Mais ça, je trouve ça intéressant parce que, comme la NCAA, qui depuis tout le temps est un peu contre tout ce qui est les joueurs qui choisissent d'autres parcours que eux principalement, là, donc c'est nous ou rien. Mais ça, au final, moi, je pense que ça va juste leur bénéficier encore plus parce que oui, ça va rendre d'autres niveaux, donc Junior A, le U-Sport, ça va sûrement baisser le niveau considérablement parce que les joueurs de 20 ans, au lieu de se diriger, mettons, on parle de un Antonin Véro. Là, je dis un nom au hasard, là, mais un Antonin Véro qui, normalement, serait peut-être allé justement à Moncton ou à une autre université, là, va se diriger en NCAA. Mais moi, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est qu'il y a peut-être des universités qui vont venir prendre avantage de ça. Là, je sais pas encore ça va être quoi les modalités de est-ce que tu as, comme en Europe, tu as des nombres de joueurs importés maximum. Donc, est-ce que ça va être ça pour la NCAA? Je sais pas. Mais moi, je vois, mettons, une université comme celle du Maine, qui est quand même pas un programme très reconnu, qui c'est quand même un en division 1 et tout, mais moi, je pense que des universités comme ça vont peut-être prendre avantage puis aller choisir dans ce bassin de joueurs-là canadiens et ça va peut-être venir égaliser un peu plus parce que là, en ce moment, on a des super puissances. On a des Boston College, Boston University, Michigan, j'en passe, North Dakota. Donc, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Là. Est-ce qu'on va venir puis on va commencer à voir d'autres universités émerger puis des programmes se développer? Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Là.
C'est au plus fort la poche, la NCAA. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'argent, c'est ce qu'on te promet. Tu sais, on a beau ouvrir cette porte-là, c'est pas tous les jeunes qui vont avoir les moyens de se payer une éducation à Harvard, là, puis à Boston College, puis à Wisconsin, puis à Notre-Dame, puis tout ça. Alors, il va falloir quand même que les jeunes aient des bourses, puis à un certain moment, chaque équipe universitaire ne pourra pas donner 50 bourses. Là. Tu sais, tu as 22 places dans ton...
Non, c'est ça.
Puis il va peut-être, dans la réglementation, avoir une limite de joueurs, exemple, canadiens dans l'équipe. Tu sais, ça, on ne le sait pas encore, mais c'est pas vrai de penser que tous les joueurs de la LHJMQ vont se ramasser dans la NCAA à 19 ou à 20 ans. Mais c'est sûr qu'il y en a qui, surtout les bons étudiants, là, soyons honnêtes, là, le bon étudiant qui est bon au hockey puis qui est rendu à 19 ans, il n'a pas été repêché. Là, il se dit peut-être bon avenir, tu sais, peut-être du côté américain. T'sais, on a un Justin Côté qui a 20 ans, qui a gagné avec Drummondville l'an passé. Puis là, il a été échangé à Québec. Il est premier compteur de la Ligue au moment où on se parle. Il n'est pas très grand. Je ne pense pas que les débouchés professionnels pour lui sont très bons. Mais il fait tout un job avec les Remparts cette année. Sauf que si lui, on lui donnait la possibilité de dire « Hey, on paye toutes tes études, puis tu t'en viens jouer à, comme tu disais, au Maine ou à Boston, ou peu importe », peut-être qu'il ne serait pas dans l'uniforme des Remparts en ce moment. Et pour les Remparts, ce serait un gros, gros trou là, de essayer de remplacer un bonhomme comme lui. Alors, c'est trop tôt en ce moment, là, pour, mais c'est sûr qu'il va y avoir des tractations puis des jeux de coulisses. Les universités, ça va toujours être celles qui ont plus d'argent qui vont avoir le dessus, ça j'en suis convaincu.
Et aussi, là en ce moment, bon, il y a eu un joueur dans la WHL et un joueur dans la LHMQ, en tout cas que je sais, qui sont revenus, qui sont partis des États-Unis, qui sont revenus, moi je parle de Zachary Morin principalement, là, donc un joueur qui avait des autres estimes, je me rappelle en 21-22 d'aller le voir Midget 3A, puis de faire comme, OK, ce gars-là, de savoir avant d'aller voir, là, pas juste mon évaluation sur le match, mais de faire comme, OK, ce gars-là, en 2025, ça devrait être un top au Québec. Il avait été repêché en première ronde par Boisbriand, ben Blainville l'année passée, et cette année, en sixième ronde par St. John. Puis là, justement, il revient parce qu'il sait qu'il pourra retourner ensuite. Donc, moi, ça aussi, je trouve ça intéressant.
Je ne suis pas sûr qu'il est revenu parce qu'il sait qu'il va pouvoir retourner. Je pense qu'il est revenu parce qu'il n'était pas satisfait. C'est pas le premier qui fait ça. Là. Je veux dire, il y en a qui se font promettre plein de choses aux États-Unis. Puis lui, il était justement dans la situation où il devait jouer dans la USHL parce que son stage universitaire à Boston devait commencer seulement en 26-27. Alors, lui, il devait passer cette année et l'année prochaine dans la USHL. Il avait joué là l'an passé. Puis là, ben, visiblement, il n'était pas satisfait de son utilisation, puis il a décidé de changer d'idée, puis il n'est pas le premier, puis il n'est pas le dernier. Il y en a qui sont allés aux universités américaines, puis que ça n'a pas fonctionné. Souvenons-nous de A.J. Greer avec Juan Aranda, l'année que les Huskies ont gagné en 2016. Il jouait avec Jack Eichel à Boston, puis ça ne fonctionnait pas, puis il a décidé de revenir. Il va en avoir toujours comme ça, là. Mais c'est sûr, par contre, que si la réglementation passe, et qui veut retourner à Boston en 2027, il va pouvoir. Ce qu'il n'aurait pas pu faire maintenant parce qu'il a perdu son admissibilité.
Ça va être intéressant aussi de voir, parce que là, en ce moment, quand tu recrutes, ben, quand tu repêches un joueur de la LCH, tu as 2 ans pour le signer. NCAA, c'est 4 ans. Donc là, c'est ça. J'ai hâte de voir, ça va être quoi ça aussi avec si on repêche un joueur dans la LHMQ, mais il s'en va faire il continue en NCAA, est-ce que tu gardes tes droits? Donc ça va être intéressant. Puis
on ne le sait pas.
Je veux pas trop mettre. Mais c'est ça. Je fais que j'ai hâte de voir. C'est dans les airs. Puis je veux faire un lien parce que là, je parlais de Morin. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens que cette année, on a une cohorte quand même de la LHGMQ qui devrait être plus présente au repêchage. Je ne sais pas si tu as le même feeling. Dans les dernières années, c'est peut-être été un peu plus mince. Mais là, on a quand même des Guité, des Dédoyer, des Carbonneau qui sont projetés déjà en début, là, en novembre. Ben même pas, en octobre, ils sont comme projetés dans la première ronde. Puis par la suite, on a encore une couple de gars. Là, t'sais, moi, je parle juste des Alex Wang. Est-ce que tu sens en ce moment, en général, que dans la LHGMQ, il y a peut-être plus de potentiels joueurs de la LNH éligibles que dans les dernières
années? Écoute, c'est pas dur à battre. Ça fait 2 ans qu'on n'en a pas en première ronde, ce qui n'était jamais arrivé 2 ans de suite dans l'histoire de la LHGMQ qu'il n'y ait pas de joueurs repêchés en première ronde. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas de difficulté à battre ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Puis oui, Caleb Desnoyers, Émile Guité, Justin Carbonneau, est-ce que Morin peut monter en première ronde? Est-ce que Wang peut être en première ronde? Ça se peut, là. Je ne dis pas qu'il va en avoir 5 en première ronde. Il y a Bill Zonon, Erwin Laranda. Tu sais, il y a des bons joueurs cette année, mais c'est sûr que là, on a une meilleure cuvée. Les joueurs nés en 2007 qui sont admissibles cette année, il y en a plus que ceux nés en 2005 par 2006. Et si j'avais la réponse à cette question-là, le pourquoi, je serais probablement quelqu'un de très riche, mais il n'y en a pas d'explication. Est-ce qu'on a changé les vitamines dans les Fruit Loops pour les bébés qui sont nés en 2007 qu'on n'avait pas en 2005? Je ne le sais pas. Comment l'expliquer? Pourquoi une année, il y a 12 Américains en première ronde, puis l'année suivante, il y en a 2? Pourquoi une année, il y a 8 Suédois en première ronde, puis l'année d'après, il n'y en a pas? Tu sais, pourquoi il y a eu 3 Slovaques en première ronde en 2022 alors que ce n'était jamais arrivé? C'est la même chose au Québec. Là, je veux dire, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas en première ronde. Cette année, on va peut-être en avoir 3, 4 ou 5. Comment on l'explique? Il n'y en a pas d'explication. C'est des cycles, c'est comme ça. Mais c'est sûr que cette année est meilleure. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on va voir ces gars-là probablement à l'œuvre contre les Américains au mois de novembre dans le match, la nouvelle formule qu'on a mis en place pour faire jouer les meilleurs espoirs de la Ligue canadienne contre les meilleurs espoirs du programme américain des moins de 18 ans. Déjà, ça, c'est une belle ouverture parce que de ces matchs-là, on ne pensait même pas organiser ça il y a 10 ans, 15 ans. Puis là, ben, ça, on a une entente de 3 ans minimum. Là, ça va avoir lieu à London puis à Oshawa cette année. Alors, on va présenter ça à RDS puis ça va être une fichue de belle vitrine de comparer nos meilleurs du Canada aux meilleurs des Américains.
Là, j'ai une petite question, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais mettons un James Higgins qui joue dans la NCAA, est-ce qu'il va pouvoir être invité à l'équipe des États-Unis ou comme non. Il est pur junior?
C'est l'équipe du programme américain qui va aller au championnat du monde des moins de 18 ans en avril. C'est cette équipe-là qui va se présenter. Écoute, à moins qu'on leur permette d'ajouter un gars ou deux, là, mais en principe, c'est l'équipe qui joue ensemble dans la USHL, dans le fond, qui va venir jouer ces 2 matchs-là au Canada.
Puis, au final, là, on vient de sortir de la pré-saison de la LNH. On a eu les matchs recrues. Ou est-ce que, justement, c'est peut-être préféré par les dirigeants parce que des matchs recrues, il y a un peu plus d'intensité, il y a un peu plus de compétition parce que les jeunes, au final, veulent se prouver. C'est pas juste un match blanc contre rouge ou est-ce que tu veux pas faire mal à ton collègue ou ton adversaire. Est-ce que, selon toi, cette espèce d'événement, si je peux dire, là, ces 2 matchs-là vont être comme un début d'une tradition, puis on va arrêter, ça va être complètement fini, le match des espoirs juste de la LCH, parce qu'on s'entend que c'était un peu aussi la même chose.
Il n'y en a plus de match des espoirs là, cette année.
Il n'y en aura plus tout de suite,
Il n'y en aura plus pendant 20 ans, là, mais c'est la formule remplace. Là. La formule qu'on prend là au mois de novembre remplace le match des espoirs au mois de janvier qu'on faisait depuis quoi, 25 ans maintenant. Moi, je pense que pour les 2 équipes, les 20 quelques joueurs qui vont être choisis pour la Ligue canadienne, je ne sais pas encore la formule s'il va y avoir seulement 20 joueurs qui vont jouer les 2 matchs ou si on va en avoir 24-25, puis il y en a qui vont jouer 1 match sur 2. On ne connaît pas encore l'identité de l'équipe. Mais autant pour les Américains que pour les gars du Canada, il n'y a pas une équipe de la Ligue nationale qui ne sera pas là à ces 2 matchs-là. Là. Tous les recruteurs, les directeurs généraux vont être là. Puis c'est le fun, parce que tu sais, quand tu faisais le match des espoirs, là, 20 rouges d'un bord, 20 blancs de l'autre bord, ça donne ce que ça donne, tu sais. Puis, mais là, les Canadiens vont vouloir battre les Américains vont vouloir battre les Canadiens. Puis n'oubliez pas que ces 40 bonhommes-là risquent de se revoir, plusieurs d'entre eux, au Mondial des moins de 18 ans en avril prochain. Alors moi, je pense que ça va être des bons matchs, ça va être un bon spectacle. Puis la Ligue nationale va se régaler de ça. Là. Ce soir-là, on va présenter les matchs, puis on va aller dans les estrades, puis vous allez voir, là, d'après moi, tous les directeurs généraux de la Ligue nationale vont être là. Ils ont mis ça à leur agenda en ce moment.
Le Hellinka en août, ce match-là, ben, ces deux matchs-là en novembre, ouais, peut-être le championnat mondial pour quelques-uns.
Ensuite, mais le Linka, en août, ça reste du hockey d'été. Là. C'est correct, ce tournoi-là, mais tu sais, les joueurs ne sont pas dans leur forme optimale. Là, on va présenter ça en novembre. On va avoir quoi, 15-20 matchs de jouer là, dans chacune des ligues. Ça va être intéressant, je pense.
Ouais, j'ai bien hâte de voir. Donc, sur ça, merci d'avoir participé au jeu César du hockey. Puis, anormalement, on va se revoir dans quelques instants.
La mise en échec est une présentation de CAG Sport. Pour des RAS de cartes d'hockey, vente et échange de cartes sportives de toutes sortes et futur break de boîtes de cartes, consultez la page Facebook CAG Sport. Mise en échec.
Yes, on va faire deux mises en échec, deux questions de type barrage, puis après ça, on te laisse y aller, Stéphane. Ça devrait pas être bien. Mise en échec, voler la section des sports, distribuer le journal, c'est quoi qui s'est passé? C'est ça que j'ai dans mes notes.
Comment t'as dit ça?
Attends, comment il m'avait écrit ça? Ça sera pas bien long. Voler la section des sports, distribuer le journal.
Ah oui, OK. Voler, j'ai compris. Voler, OK.
Non, voler.
Oui, voler, ben oui, je l'ai déjà raconté. J'étais camelot pour la presse, je devais avoir 12 ans peut-être, donc ça nous ramène à la fin des années 70, début des années 80. Puis à cette époque-là, dans la presse, il y avait ce qu'on appelait le tabloïd des sports, qui était une petite insertion dans le milieu à tous les jours. Puis moi, j'avais mes portes à distribuer. Je passais la Gazette puis la presse. Puis j'avais une madame dans ma run de journaux, appelons ça comme ça, Madame Stewart, qui avait peut-être à l'époque 75 ans, là, je sais pas, là, mais puis... Moi, je me disais, cette madame-là, d'après moi, ne lit pas le cahier des sports. T'sais. Alors, il y a une journée, j'ai fait une tentative, j'ai enlevé le cahier des sports du journal, puis je l'ai gardé chez moi. Mm-hmm. Puis, je mettais un petit X sur la copie pour ne pas me tromper, évidemment. Mm-hmm. Alors, j'ai livré le journal, puis deux fois, trois fois, puis j'allais me faire payer à la fin de la semaine. Puis, Mme Stewart était toujours contente, me donnait toujours un bon pourboire. Alors, j'ai dû lui livrer le journal pendant un an et demi sans jamais de tabloïd des sports dedans parce qu'on n'en est jamais rendu compte, on m'en a jamais parlé. Alors, j'avais mon tabloïd des sports. Quand je finissais ma run de journaux, il était 7h15, ben, en mangeant mes céréales avant d'aller à l'école, j'avais mon journal de sport parce qu'évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Alors, tu voulais avoir les résultats de sport, c'était dans le journal le lendemain matin. T'sais. Alors, c'est ça, oui, je volais. Je n'avais pas compris ta question.
Voler.
Ouais, c'est un vol, je suis obligé de l'admettre, mais je vis bien avec ça. Puis Mme Stewart ne m'en a jamais parlé.
C'est bon.
Prochainement, on a avoir le pouvoir de faire suspendre un joueur ou non avec un montage à Sport 30.
Oui, ça, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée aussi. C'est qu'à l'époque, je vous parlais tantôt d'aller avec un caméraman puis de revenir à la station avant le bulletin de 11 heures, évidemment. Et là, il y a un soir. Mon caméraman a... Parce que là, mettez-vous dans le contexte, là, c'est une caméra qui suit. C'est pas 5-6 caméras, c'est une caméra qui suit. Alors, si la caméra est en ligne là, puis il y a un geste répréhensible qui se passe là, pas sûr que la caméra va le voir. Il y a d'autres fois que la caméra, le coup de bâton d'en face, mon caméraman, il me dit, « Hey Stéphane, je l'ai comme il faut sur mon image, le geste en question. » Alors, moi, j'ai le choix éditorial de le mettre ou pas dans le montage le soir à Sport 30. Si je reviens à la station, puis j'ai, exemple, 4 buts, un bel arrêt, une bataille, puis le coup de bâton d'en face, tout ça ensemble monté à coup de 10 secondes, ça fait 1:20, mettons. Puis que mon chef de pupitre me dit, « Ouais, mais Stéphane, pas plus qu'une minute, il faut que tu coupes 20 secondes. » C'est moi qui décide ce que j'enlève. J'enlève-tu le bel arrêt, j'enlève-tu la tape saillelle ou j'enlève le bâton d'en face? Tu sais, c'est... Puis là, ben si je mets le bâton d'en face, il passe aux nouvelles, mais ça se peut que le joueur se fasse suspendre parce que la caméra de l'équipe, à l'époque, c'est du VHS, ne l'a peut-être pas pogné non plus. Fait que le préfet de discipline de la Ligue est obligé de se fier à la cassette des équipes pour décider s'il suspend ou pas son joueur, le joueur en question. Alors, si l'équipe dit, on ne l'a pas sur notre image, ça va être dur de suspendre le joueur. Alors, si moi, je le mets dans le montage, ça se peut que... Puis là, ça devient une question d'intégrité. Tu sais, un soir, tu le mets, un soir, tu le mets pas, mais un soir, tu veux le mettre, mais le caméraman ne l'a juste pas pogné. Pas de ta faute à toi. La caméra ne l'a pas pogné. Tu sais, alors, on fait quoi dans ce temps-là? Tu sais? Puis, je me souviens d'un soir à Granby avec les frères Morissette, l'année après qu'il a gagné la Coupe Memorial en 96, il y avait un de leurs joueurs qui avait coup de bâton par en arrière, là, direct en face du joueur, et mon caméraman elle l'avait en gros plan. Alors, moi, je l'ai mis dans le montage de Sport 30 parce que je trouvais que ça faisait partie de l'histoire du match. Et le joueur en question a été suspendu. Alors, quand je suis retourné à Granby le match suivant, j'ai eu droit à tout un accueil des frères Morissette. Pourtant, c'était des gens avec qui je m'entendais très bien. Mais moi, j'ai dit aux frères Morissette, j'ai fait ma job. Tu sais, si c'était contre votre équipe, vous auriez voulu que je le mette, ben je l'ai mis. Tu sais? Mais j'avais eu droit à une bonne sermonade, puis leur joueur qui a été suspendu. Puis ça, c'était en séries éliminatoires en plus, en 97. Fait que c'est ça. Tu sais? Puis moi, j'avais appelé la Ligue à ce moment-là, puis j'avais dit à la Ligue, je trouve ça injuste que vous vous fiez à nos images pour décider si vous suspendez ou pas un joueur. Mais passer un règlement en disant qu'on n'a pas le droit de se servir de RDS, de TQS à l'époque, de TVA, pour prendre des décisions. Il faut que ce soit sur la cassette de l'équipe, absolument.
OK.
Avec Normand Flynn, qui était entraîneur à Saint-Hyacinthe à l'époque, puis un soir, Georges Larac est parti, puis il a servi une coupe de taloche à 3-4 joueurs de l'autre équipe. Et nous, on l'avait à RDS bien comme il faut. Tu sais, les images, on était là ce soir-là. Lui, sur sa cassette, il avait décidé qu'il y avait une tempête de neige à ce moment-là. Il avait effacé le bout où Georges Larac, il donnait une coupe de tape sur la gueule aux joueurs de l'autre équipe. Fait que quand Maurice Pilion, le regretté Maurice Pilion, qui était préfet de discipline, a demandé la cassette, ben, quand elle arrivait à ce moment-là, il y avait de la neige sur les images, puis il n'a pas pu suspendre. Alors qu'à RDS, au bulletin de nouvelles, ça passait en boucle, les tapes à la gueule de Georges Larac, qui n'avait pas été suspendu. Puis ça amenait aussi le fameux débat. Ouais, bien, votre caméra est toujours à Laval, à Saint-Hyacinthe, à Granby, puis elle n'est jamais à Val-d'Or par Rouyn-Noranda. Ça fait que les gars de Val-d'Or et Rouyn-Noranda, ils ne se font jamais suspendre, eux autres, parce que les images ne sont pas à Sport 30, à cause des raisons que je vous donnais tantôt. T'sais. Alors, c'est pour ça que je me suis comme un peu sorti de ça parce que je trouvais que ça nous mettait de la pression à moi, mais à mes caméramans surtout, qui faisaient leur gros possible pour filmer ce qu'il y avait à filmer, mais qui ne pouvaient pas nécessairement tout attraper non plus. Alors, ça vient de là, ta question à propos de ça.
OK.
Ça peut juste m'ajouter une question, là, mais maintenant, est-ce qu'il y a encore cette règle-là pour le droit de suspendre juste pour un certain média, dans le sens que maintenant, on a des vidéos des téléspectateurs là, avec leur iPhone là, qu'on pourrait voir un
peu. Maintenant, premièrement, chaque match, il y a au moins 3-4 caméras sur chaque match présenté parce que c'est web diffusé. Alors, ils n'ont plus besoin des images de RDS ou de TVA ou de whatever. Ceci dit, par contre, il y a quelques années, il y a 3 ans, je pense, il y a un joueur de Moncton qui a été suspendu, Zachary Lheureux, parce qu'un partisan avait filmé le coup de bâton qu'il avait donné en sortant de la glace. Tu sais. Alors, si on peut se servir de tout ce qu'on a, on le prend. Mais pour ce qui est de ce qui se passe sur la glace, la Ligue est drôlement mieux équipée maintenant qu'elle l'était il y a 30 ans quand j'ai commencé.
Parfait. Fait qu'on va aller à un dernier segment, les tirs de barrage, puis après ça, on va te laisser passer une belle soirée.
Merci. Les tirs de barrage sont une présentation de Perfo Elite. Pour tous vos besoins d'entraînement, que ce soit seul ou en équipe, hors glace ou sur glace, physique ou mental, et tout ce qui touche le développement global, rendez-vous sur perfoelite.com. Bon tir de barrage.
Tir de barrage. La première question, ce serait quoi ton foursome de golf de rêve? Avec des célébrités, ça peut être n'importe qui.
Ben, je ne suis pas un super golfeur. Okay. Je m'améliore, mais je ne suis pas un super golfeur. Alors, c'est sûr que de jouer avec un vrai bon joueur de golf, Tiger Woods dans son prime, ça aurait été le fun. Je suis allé il y a 2-3 semaines au la Coupe des Présidents à Montréal, là, puis je voyais Scheffler frapper. Puis, de toute façon, peu importe, là, pas nécessairement juste Scheffler, mais de voir ces bonhommes-là frapper la balle, c'est épouvantable. Alors, c'est sûr que de jouer avec un vrai bon golfeur, là, ça serait super le fun. Pour ce qui est des histoires de hockey, des histoires d'entendre, tu sais, ce qui s'est passé, puis ça, je pense que Scottie Bowman, ce serait quelqu'un de... J'ai eu la chance un soir d'en avoir un bref échantillon, là, peut-être de 15 minutes dans un vestiaire à Québec. Je pense que c'était en 2007, là, où il était venu coacher justement le match des meilleurs espoirs dont on parlait tantôt. C'est un bonhomme incroyable là, qui était probablement le plus grand coach de hockey de l'histoire, pour avoir vécu toutes sortes de choses dans les bonnes années du Canadien puis tout ça. Et mon idole, Guy Lafleur. Je pense que ça aurait été. Je sais que Guy Lafleur, c'était pas un golfeur, là, mais pour le besoin de la discussion, je fais partie des chanceux dans la vie qui ont rencontré leur idole. T'sais, quand j'étais petit, moi, c'était Guy Lafleur, évidemment. Puis j'ai un numéro 10 d'ailleurs sur mon chandail ici. Puis je suis chanceux parce que quand on arrivait dans un endroit organisé par la Ligue, puis que Guy était là, il me disait « Salut Stéphane, comment ça va? » C'est pas tout le monde que leur idole, un, ils les ont rencontrés, puis deux, ils les reconnaissent. Le gars pour qui son idole, c'est Barack Obama, exemple, ben, ça veut pas dire que Barack, il l'a déjà rencontré, puis que s'il l'a déjà rencontré, Barack, il va lui dire « Salut Sébastien, comment ça va? » Alors moi, j'ai toujours trouvé ça un peu... je me rappelle en 1990, là, petite anecdote, ça fait 2 mois que je travaille à RDS, puis là, on me dit « Tu vas aller couvrir à la brasserie Molson les mérites Guy Lafleur, qui étaient des mérites qu'on accordait académiques aux joueurs universitaires, juniors, midget, qui avaient bien performé au hockey, puis dans les études. » Puis je me suis retrouvé à faire une entrevue avec Guy Lafleur. Et j'en chéquais, là, je veux dire, la première fois que je l'ai rencontré, là, c'était « wow », c'était vraiment... Mais puis je suis allé à ses funérailles, puis j'étais émotif. J'étais quand le cercueil est sorti là, à la cathédrale à Montréal, là, j'avais les larmes aux yeux. Tu sais, c'était très émotif. Alors, Guy Lafleur, Scottie Bowman, Tiger Woods, je pense que je passerais une belle journée. Là.
Ah, c'est sûr.
Pas sûr que eux autres en passeraient une belle comme qualité de golfeur, là, mais ça, c'est autre chose.
Yes, parfait. Jules, tu voulais-tu y aller avec l'autre ou je veux? Ah, la question à Matt.
Ben oui, mais carrément avec la question à Mathieu, on va y aller. Donc, c'est ça, c'est un de nos collaborateurs, si je peux dire, qui vient de Gatineau. Il couvre les Olympiques et il te demande c'est quoi ton joueur préféré des Olympiques de Gatineau de tous les temps et présentement, j'imagine. Là, donc,
moi, j'avais bien aimé Pavel Rosa. On va retirer son chandail d'ailleurs cette année. J'aime beaucoup ce joueur-là. C'était un joueur spectaculaire à l'époque qui avait compté, je pense, 55 buts. Ça a été le premier Européen qui a été champion compteur de la LHJMQ. Et il parle français comme vous puis moi aujourd'hui. Là. Tu sais, il a marié, si je ne me trompe pas, une fille d'Aylmer dans ce coin-là. Là. Puis je l'ai vu l'autre jour en entrevue, puis quand l'annonce de du retrait de son chandail. Puis honnêtement, c'est... C'était un joueur qui était très, très spectaculaire dans ces années-là. Mais les Olympiques en ont eu des très bons au fil des ans, là, on va se le dire. Là. Mais dans ces années-là, là, Pavel Rosa, Martin Ménard, Jonathan Delisle, Peter Worrell, là, c'était une grande équipe. Là. 97, quand ils ont gagné la Coupe Memorial à la maison. Là. Puis j'ai adoré, puis je pense que je peux considérer que c'est un ami aujourd'hui, là, mais j'ai adoré Benoît Groulx comme entraîneur-chef. J'avais une collaboration avec lui, des discussions incroyables. Quand on parle d'un raconteur, là, d'un gars pour te conter des histoires, là, c'est Benoît, c'est un gars que j'ai toujours, toujours aimé. Je trouve ça tellement dommage qu'il n'ait jamais eu sa chance dans la Ligue nationale. Il est dans la KHL présentement. Puis, ouais. Je me souviens de soir à Gatineau où le match commençait à 19h30. L'hymne national est en train de jouer. Puis on est encore en train de s'ostiner dans le bureau à 19h28, là, lui et moi. Là, le match commençait dans 2 minutes. Là. Alors, tu sais, c'était spécial, là, tu sais, puis j'aime beaucoup Benoît. J'espère qu'un jour, il va être intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ parce que ça a été un bon coach dans la Ligue. Il est une bonne personne. Puis, c'était Maxime Talbot la semaine passée. Maxime Talbot en est un bon des Olympiques, il ne faut pas l'oublier, là. Il est intronisé au Temple de la renommée, puis il parlait de Benoît Groulx, là, puis Benoît l'a beaucoup aidé, là, il n'y a aucun doute là-dessus.
Juste 2 secondes. On parle de Benoît Groulx en KHL. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase que vous pouvez nous dire sur comment ça se passe pour lui là-bas?
Honnêtement, je vois qu'il y a une bonne fiche, mais je n'ai pas échangé de message avec lui dernièrement. Là. Je regarde les statistiques de la KHL plus cette année. Zach Foucarlé, c'est son gardien de but. Puis il l'avait eu comme gardien avec l'équipe Canada Junior quand il a gagné la médaille d'or là, en 2015. Je n'ai pas eu de conversation avec Ben là, récemment, mais je suis content pour lui qu'il connaisse du succès, puis ça a l'air à bien fonctionner là-bas, alors on va lui souhaiter la meilleure des chances.
Parfait. Dernière question, que dirais-tu au Stéphane qui commence le métier si tu aurais un message à lui dire?
Travaille fort, un peu comme je t'ai dit tantôt pour mon fils. Prépare-toi, travaille fort, puis ne prends rien pour acquis, même si ça fait 30 ans que tu fais ça. Tu sais jamais quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va vouloir te prendre ta place. Faut que tu gardes. Faut que jamais, comment je dirais ça? Faut que jamais que ta présence en onde, tu la prennes pour acquise. Tu tiennes ça pour acquis de moi là, je connais tout, je sais tout, puis tout ça, ça marche pas comme ça. Là. Tu sais, ces gens-là ne restent pas dans le métier. Puis quand ça fait 34 ans que tu es là, ben il y a une raison. C'est oui, tu as un certain talent, là, je dis pas ça. Mais tu as travaillé aussi. Il faut que tu travailles. Tu sais, les joueurs de hockey qui ont des carrières de 20 ans, là, ils ont du talent, mais ils ont travaillé. Tu sais, quand tu entends des histoires de Jaromir Jagr qui a 53 ans et qui est encore sur le vélo stationnaire à tous les jours, là, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, qui prend des répétitions, puis des Corey Perry qui approche 40 ans et qui sont encore capables de jouer, puis Sidney Crosby qui est rendu bientôt à 37-38 ans. C'est ça. Tu sais, il faut que tu ailles chercher. Nous, dans notre métier, c'est différent. C'est pas physique, c'est plus intellectuel des fois, tu sais, mais travail. C'est ça que je dirais aux jeunes, c'est ça que j'ai dit à mon fils d'ailleurs.
Parfait. Bien, merci beaucoup, Stéphane, pour un heure de temps. Merci beaucoup encore de ton temps.
Ça fait plaisir, les boys. Bonne continuité.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Salut.
Salut. Yes, très intéressant d'un bout à l'autre. Merci encore de ton temps. Une heure, on a dit 40 minutes. Là. C'est très intéressant. Là, je pense qu'on va être prêt à passer au ref. Claude, tu peux venir.
Ben, il a mis son bâton, il a poussé ce gars-là. Il l'avait, la porte.
Salut,
hey, salut les boys, oui, donc c'est ça, M. Leroux, écoute, intéressant, on a skippé quelques questions parce que M. Leroux a beaucoup de choses à dire, mais là, on voulait pas le garder trop longtemps non plus. Fait que, bref, on va rentrer tout de suite dans le vif de mon sujet. Vous avez posé une question sur Barry Boulay, au début du podcast. Justement, bon, c'est ça. Barry Boulay qui est au balotage. Comme M. Leroux l'a dit en début de podcast, je pense que on sait pas trop ce qui s'en vient. Y a-t-il un joueur, peut-être à RHP, qui est prêt à revenir au jeu? Fait que c'est sûr que c'est ça. Donc, on va voir, là, premièrement, s'il est réclamé. S'il ne l'est pas, ben où il va à Laval, il va l'aider le Rocket, assurément.
Je veux juste dire, là, tu parles de Raphaël Harvey Pinard. Harvey Pinard s'est blessé en juillet. Fin juillet, puis ils ont dit qu'elle allait être pour 4 mois. Le 4 mois commence à être...
Pas mal là. Ouais, t'as pas mal raison. Sinon, on va continuer avec les Canadiens. On va parler de Samuel Montembeau. Pourquoi on parle de Samuel Montembeau? Écoute, juste son blanchissage, tout le monde le sait, là, son premier blanchissage, 48 arrêts. Ça existe un record de la Ligue nationale pour un match d'ouverture. Petit Québécois, ça a pris du temps avant qu'il s'établisse comme pro dans la Ligue nationale, qu'il devienne un numéro. Il a sa première chance d'être numéro 1 cette année. Écoute, il l'accomplit à merveille. Je passe du coq à l'âme, donc le Rocket de Laval, le Rocket qui ont joué pour 500 en fin de semaine, donc une victoire, une défaite. Donc Logan Mailloux qui a fait 4 points dans le premier match, donc le match d'hier, donc samedi, ils l'ont perdu, c'était Hughes qui était dans les buts. Il a très bien fait en passant, là, il a zéro sa faute, là, l'issue du match finalement. Là. On va parler en baseball, les boys. Un petit peu de MLB. Pourquoi? Parce qu'on a le corridor. C'est le corridor. Donc, les surprenants Mets qui vont s'attaquer aux Dodgers de Los Angeles et Shohei Ohtani. Tandis que dans la Ligue américaine, on a les Yankees contre les Guardians de Cleveland qui vont s'affronter dans des séries 4-7. Parce qu'au baseball, les premières séries, c'est 2-3. Ensuite, un 3-5. Puis après ça, on finit ça avec un 4-7. Fait qu'on va passer à l'ovation du ref.
Une fin, Veilleux s'amène. C'est le qu'on va le prendre.
Quel tir de Veilleux! Batters gaffe, Veilleux marque, c'est 3-0.
On va le forcer à passer à Bourroche. Un tir bloqué, retour.
Et quel arrêt de Blackburn!
Komarov la fin, ça va en son but. Incapable de tirer, contourne le filet, revient devant. Et but!
Bien créé par Poirier, de l'autre côté, la passe, la flotte.
Oh! Et le but! Quel but!
rapide. Entre, couvert le filet.
Oh, wow! Oh, wow! Simon!
J'ai quelque chose à dire avant.
Oui, vas-y.
Depuis que t'as mis cette intro-là, Veilleux n'a pas scoré. Je tiens à dire ça.
Ah, ben écoute, ouais, c'était vu l'année passée. Puis là, écoute, ça me prenait des intros, puis c'est ça. Bref.
Non, c'est pas correct.
Les boys, si je vous dis goaler des Tiques de Victoriaville, du tac au tac comme ça, vous me répondez.
Deg.
Deg, ben oui. Sauf que là, c'est son partner qui s'est illustré. Donc, Jacob Henlen. J'espère que je dis son nom comme il faut. On regarde ça. Hashtag remplissons les arenas. Allez voir ça.
And out. We've got a 3-on-1. That's Morin coming with Grew. Back to Morin. Grew. Morin on save. Oh, another save. Bob Bilodeau robbed on the doorstep. Oh, can you believe?
Donc, écoute, c'est ça. Déplacement à gauche-droite. Je vois que tu allais dire quelque chose.
C'est juste que tantôt, j'ai parlé de Zachary Morin qui faisait le switch à la LHMQ. Puis là, ben c'était... C'était lui sur la glace là, qu'on vient de voir de ce qui vient de se faire voler.
Ouais, il était là-dessus. Donc, c'est ça. Fait qu'un match qui s'est passé à Saint-Jean où les Tigres étaient visiteurs. Donc, bel arrêt de Jacob Henlen. Mm-hmm. Le moment You Can Do That de la semaine. Je suis sûr que vous en doutez c'est quoi, mais on va aller voir ça. I'll have none of your guff. You can't do that. You can do that. Bon, OK. Fait que là. Là, la photo que je vais vous montrer, c'est Raphaël Lavoie. Mon You Can Do That, mon moment de la semaine, n'a aucunement à voir avec le jeune homme. Okay, Raphaël n'a rien à se reprocher là-dedans. Mais là, la saga, balotage, on réclame. Moi, là, j'étais convaincu que quand tu réclamais un joueur, il fallait que tu le fasses jouer au moins pour 30 jours. OK? Au moins. Puis là, écoute, là, trois fois balotage, le jeune homme, là, finalement, il va finir à Vegas. Mais bref, une petite guerre entre Vegas et Edmonton. Qui était inutile pour le joueur, d'après moi, parce que lui, écoute, pendant ce temps-là, il joue pas, là. Tu sais, je veux dire, il se fait réclamer par Vegas, ça reste là. Tu sais, je veux dire, il peut commencer à jouer, là. Mais là, écoute, là, il a perdu quasiment une semaine de temps de jeu. Donc, c'est ça, You Can Do That pour même de la semaine aux Golden Knights de Vegas et aux Oilers d'Edmonton.
Hey Claude, je vais te laisser ça, annoncer les trois étoiles comme la semaine passée.
Yes, on va te faire ça. Donc, pour les chroniqueurs de Sur la Bande, la troisième étoile, le third star, Mathieu Duguay. Donc, Mathieu qui a fait un petit extra en faisant un article sur les flammes de Gatineau. On dit-tu les flammes ou les flames?
Les flames, je pense. Je pense que c'est les flammes.
Je trouve que ça ressemble plus à la flamme,
les flammes. Ouais.
Ouais, en tout cas, bref, ouais, c'est ça. La deuxième étoile, the second star, Lina Gagnon. Et pour tous ces petits textes-là, ben, je ne dirais pas improvisés, là, mais sur des trucs qui arrivent là, on the spot. La première étoile, the first star, Isaac Boucher.
C'est Isaac 3-3, je pense, depuis le début de la saison.
Aïe, aïe.
Ouais. Fait que, écoute, là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, les boys. Puis,
yes. Je pense que vous n'êtes pas en nombre avec dans le mille cette semaine. Là. Ce chrono m'avait dit deux semaines, pas d'épisode.
Non, c'est ça. On a une semaine de pause. En même temps, je peux vous dire que là, Renaud et moi, on a sorti nos premières vidéos d'analyse de joueurs pour le repêchage 2025. Renaud, il a fait sur Matteo Nobert de l'Armada, puis moi, j'ai fait sur Michael Missa du Spirit de Saginaw. Donc, vous pouvez regarder sur la chaîne de Dans le mille. Mm-hmm. Donc, pas mal, c'est ça qui remplace un peu l'épisode de cette semaine. Et on est de retour la semaine prochaine et on a des cools invités qui s'en viennent.
Ouais, ça aussi. Puis la semaine prochaine, on n'a pas encore l'invité de confirmer, mais ça devrait être Emmanuelson Charbonneau.
Charbonneau. C'est ça, pas Carbonneau.
Ouais. Non, Charbonneau. Emmanuelson Charbonneau. Il reste quelques affaires à confirmer, mais ça devrait être lui. Puis dans deux semaines aussi, ça va se confirmer dans pas long, mais il a été sur les étoiles la semaine de la GMQ. Je dis juste cet indice-là.
Mais là, j'allais juste dire Charbonneau, là, si ça vous dit quelque chose, parce qu'il a été invité au camp du Canadien de Montréal.
Je pense qu'il avait connu une très bonne game, je ne me trompe pas. C'est un joueur assez physique. Je pense qu'il allait aussi vers la NCAA, lui aussi, il avait l'option.
C'est ça. Lui, il allait vers la NCAA, puis finalement, ben, ça va être intéressant d'y parler, parce que justement, lui... Ça n'avait pas totalement fonctionné, de ce que je comprends. Après, ça va être à lui de nous dire si c'est ça le cas. Mais de ce que je comprends, ça n'avait pas trop bien été. Donc, il était revenu dans la GMQ. Et là, avec Blainville, il est vraiment un pilier à la défense.
Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez une bonne écoute. N'oubliez pas de vous abonner. Encore merci à Stéphane d'être venu une heure très intéressante. Puis merci ouais. Jules d'avoir remplacé Zach en plein milieu.
Pas de problème. Je pensais même que j'allais devoir en faire plus. Fait que regarde, ça me va complètement.
C'est bien correct. Merci beaucoup. Puis passez une belle semaine, tout le monde.
Bonne soirée.